rencontre. Casablanca, une douce soirée d'été. Tu étais sublime dans ta robe longue quand j'ai ramassé ton foulard en soie.
Allez, on leur dit. C'était sur 10 ans demain.
Bon, c'est vrai, mais ta robe t'allait à merveille sur ta photo de profil.
Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres. Provoquez le destin sur 10 ans demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans.
Vous écoutez Europe 1, il est 15h. Et tout de suite, un point sur l'actualité avec Guillaume Lariche. Bonjour Guillaume.
Bonjour Virginie, bonjour à tous. Tous les élèves de France démarrent, poursuivent ou terminent leurs vacances de printemps ce week-end. Sur les routes du pays, ils ont fuité voie orange ce samedi en Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens de circulation. La 6, la 7, la 10 concernées. Alors si vous devez emprunter ces axes, partez si possible après 20h ce soir. Drapeau orange en région parisienne aussi dans le sens des retours aujourd'hui et demain. Et pour ne rien arranger, la 13 est fermée jusqu'à lundi au moins entre Vaucresson et Saint-Cloud. Il y a des problèmes d'infrastructure. Enfin, apparition de fissures notamment. Comme les CRS sont réquisitionnés pour les Jeux Olympiques, les 270 gardes mis à disposition des villes côtières durant l'été seront absents des plages françaises. Si les nageurs sauveteurs continueront de secourir les touristes en difficulté, ils n'ont pas les mêmes droits que les CRS pour maintenir l'ordre. Dans le Pas-de-Calais, Yannick Vérez gère 7 postes de secours sur les plages de Camiers, Stella, Merlimont, mais aussi le Touquet. Et il s'inquiète de l'absence des 12 CRS qu'il avait l'été dernier.
On m'enlève à peu près entre 20 et 25% de mon effectif. Donc moi maintenant, un problème sur la plage, je vais être obligé d'appeler la gendarmerie et l'intérieur des terres, qui ne sont pas forcément équipés pour aller intervenir sur un problème, une incivilité à marée basse. Autre chose, il faut savoir que depuis les attentats qu'on a eus à Tunis, il a fallu armer nos nageurs sauveteurs CRS. Parce qu'il y avait donc toujours cette vigilance attentat, on y est d'ailleurs toujours, encore en rouge vif même. Donc là, du jour au lendemain, on nous avait dit, il faut armer les CRS, c'est urgent. Puis là, du jour au lendemain, on nous enlève les CRS armés. Donc voilà, si demain il y a un gros problème sur la plage, il n'y aura personne pour intervenir.
Réaction recueillie par la correspondante d'Europe 1 dans le Nord, Florence Biard. Et pour parler de ces postes liés à la sécurité des JO qui démarrent dans 97 jours, mais aussi de la compétition, Jacques Vendroux recevra ce soir sur Europe 1 pendant une heure la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Rendez-vous dans le studio des légendes à partir de 20h sur Europe 1. Hasard ou lien de cause à effet, l'enquête devra le dire. Le cousin de l'un des deux mineurs mis en examen hier pour l'assassinat de Philippe à Grande-Synthe a été agressé. D'après la police, ce jeune de 15 ans a été attaqué par deux hommes encagoulés. Trouvé nu sur la chaussée par un automobiliste, la victime souffre de blessures entraînant une ITT supérieure à 8 jours. Ses effets personnels lui ont été volés. Vers une possible interdiction de TikTok aux États-Unis, mais aussi à l'avenir d'un plan d'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. À partir de 19h heure française ce soir, la Chambre américaine des représentants devra se prononcer sur cette enveloppe de 95 milliards de dollars réclamée depuis des mois par Joe Biden. Elle votera en même temps sur une possible interdiction de l'application TikTok sur le sol américain. Les autorités craignent que la plateforme de vidéos divertissantes puisse permettre à Pékin d'espionner et de manipuler ses utilisateurs aux États-Unis. Toujours plus haut pour Armand Duplantis, le perchiste suédois vient d'améliorer le record du monde d'un centimètre lors du meeting de la Ligue de Diamants de Xiamen. C'est en Chine avec un saut à la perche à 6,24 m.
Europe 1,
précisément 15h03, au cœur de l'histoire avec vous Virginie Giraud.
Europe 1, 15h, 16h.
Au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque week-end sur Europe 1 pour plonger ensemble au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose une émission sur les conspirations. Celles-ci ne sont pas théoriques, mais bien avérées, et elles ont eu un impact sur l'histoire. Pour notre premier récit, je vous emmène en Angleterre, à l'aube du XVIIe siècle, pour vous raconter la conspiration des Poudres. Un groupe de catholiques terroristes a l'intention de faire un attentat contre le roi Jacques Ier en faisant sauter le Parlement au moment où il y donnera un discours. Mais rien ne va se passer comme prévu, et un drame aura bien lieu, mais pas celui que les conjurés espèrent. Pour notre deuxième récit, on sera en France en 1934. Alexandre Stavisky est un escroc de génie qui a impliqué dans ses affaires un grand nombre d'hommes proches du pouvoir. Sa chute sera le prélude de celle du gouvernement suivie d'émeutes d'extrême droite. Et enfin, notre troisième récit aura pour décor l'Allemagne du Troisième Reich. Une poignée de militaires convaincus qu'Hitler mène le pays à sa perte vont déclencher l'opération Valkyrie qui permet de reprendre le contrôle de l'Allemagne. Mais pour ça, il faut tuer Hitler. Mais le Führer est manifestement protégé par un mauvais génie, car il va miraculeusement être sauvé d'un piège fatal. Comme promis, on commence par la conjuration des poudres en Angleterre. Être un bon comploteur n'est pas donné à tout le monde, comme vous allez pouvoir le constater.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Le récit.
Nous sommes dans les rues de Londres au soir du 5 novembre. Il fait nuit, il fait froid, et le brouillard s'est immiscé entre les maisons. Comme à son habitude, il cherche à s'emparer des passants, à les serrer dans ses bras humides pour mériter sa célèbre réputation. Mais cette nuit, les Londoniens se rebiffent. Ils courent, ils crient et ils rient pour lui échapper. Tout a commencé avec quelques braillards dans Hyde Park qui chantaient gaiement. Ils se sont mis en mouvement vers Charing Cross, Ludgate Hill et Saint-Paul, entraînant sur leur passage d'autres chalands comme un fleuve en crue. On entend des clairons et des tambourins. Dans leur folle course, certains s'accordent une pause le temps de déguster un gâteau d'avoine ou un muffin au caramel. D'autres s'arrêtent dans tous les pubs, ceux-là n'iront pas loin. Il y a des centaines de personnes à présent qui défilent dans la nuit en chantant. Au coin de la rue, un bon bourgeois et sa dame regardent épouvantés ce déferlement de joie. Un marmot haut comme trois pommes tire le pan de leur manteau en criant « A penny for the guy !» Il présente son chapeau, espérant une pièce pour acheter des pétards, mais le couple s'enfuit. Il leur tire la langue et rejoint la foule anonyme où chacun est dissimulé derrière un masque. Des masques blancs et souriants qui arborent une fine moustache et une barbichette. Et regardez, il y en a même qui ont une corde autour du cou. Ce flot humain s'arrête progressivement et maintenant, ils jouent des coudes pour trouver la meilleure place et ne rien rater du spectacle. Vous entendez ? C'est Bonfire Night, la nuit de Guy Fawkes. Le feu d'artifice va commencer. Cet événement de l'histoire britannique est peu connu chez nous, alors il vaut mieux apporter quelques précisions pour que tout soit bien clair. La religion chrétienne est l'élément central de cette conspiration. Le XVIe siècle européen est celui de la naissance et de la diffusion du protestantisme. Il s'agit d'un mouvement religieux chrétien qui rejette l'autorité du pape. Il s'agit d'une réforme, d'où son nom et celui de ses ouailles, les réformés ou les huguenots, comme on dit à l'époque. Ces derniers veulent changer et purger le christianisme de tous ses excès. L'Église est devenue trop riche, trop puissante, trop corrompue. Elle s'est éloignée de la parole du Christ. Cette volonté de réformer est à l'origine de guerres de religion qui ont ensanglanté le XVIe siècle. En Angleterre, le roi Henri VIII Tudor, qui règne depuis 1509, est catholique et marié avec Catherine d'Aragon depuis 20 ans. Il souhaite faire annuler son mariage pour convoler avec Anne Boleyn. Mais le pape refuse. Entre Londres et Rome, rien ne va plus. Henri VIII s'émancipe du pape et se sépare de Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. Enfin, cette union tant désirée ne sera pas heureuse. Le roi, désespéré de ne pas voir naître un fils, lui préfère une de ses maîtresses. Anne Boleyn est donc accusée de crimes imaginaires et finit décapitée. Finalement, en 1534, Henri VIII en profite pour renforcer son pouvoir personnel au détriment du pape. Il se déclare chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre. L'Église anglicane est née. Elle est à la fois réformée et catholique. Mais un catholicisme façon Henri VIII. Le roi dissout les monastères et saisit leurs biens. Ses sujets catholiques, qui trouvent à y redire, sont persécutés, parfois même condamnés à mort. Après la mort d'Henri VIII, sous son fils Édouard VI, l'anglicanisme s'affirme de plus en plus, se rapprochant du protestantisme. Plus de vitraux, ni de statues dans les églises, plus de messes en latin. Mais Édouard VI meurt jeune et c'est sa demi-sœur Marie Tudor qui monte sur le trône. La nouvelle reine est restée fidèle à la religion catholique et annule toutes les réformes d'Édouard. Elle persécute les protestants, les obligeant soit à se reconvertir, soit à quitter le pays. En cas de refus, c'est le bûcher qui les attend. Son intransigeance religieuse qui frise la folie vaut à la reine le surnom peu flatteur de « Bloody Mary ». Marie Tudor meurt en 1558 et c'est Élisabeth qui lui succède, la fameuse Élisabeth Ière. Et devinez quoi ? Elle est anglicane, comme son père Henri VIII. Mais elle veut la paix dans son royaume. Alors elle réaffirme l'indépendance du trône d'Angleterre par rapport à Rome. Mais elle supprime quelques-unes des lois qui persécutent les catholiques. Les querelles religieuses s'apaisent un peu dans le royaume durant son long règne. Mais il reste des catholiques mécontents, les papistes et des protestants intégristes, les puritains. En 1603, après la mort de la reine Vierge, le trône revient au jeune roi d'Écosse, le fils de la reine Marie Stuart, qui devient alors Jacques Ier d'Angleterre. Jacques décide de poursuivre la politique d'Élisabeth Ière. Le 20 mai 1604, Robert Casby, le cerveau du complot des poudres, rencontre John Wright, Thomas Wintour, Thomas Percy et Guy Fawkes dans une taverne londonienne. Le Duck and Drake. Non loin de Strand, la rue principale qui relie la City à Westminster. C'est là qu'il manigance un plan explosif. Faire sauter le Parlement et tuer le roi. Il est aussi question d'enlever la princesse Élisabeth âgée de 9 ans pour l'asseoir ensuite sur le trône et mettre en place une régence favorable aux catholiques. Voici le plan. La séance d'ouverture du Parlement est traditionnellement présidée par le roi en personne, accompagné du prince héritier et de toute l'aristocratie du royaume réunie pour l'occasion. C'est donc à ce moment-là qu'il faut le faire exploser en plaçant des barils de poudre à canon dans la cave qui se trouve juste en dessous. Guy Fawkes sera celui qui mettra le feu aux poudres. C'est un soldat courageux qui a combattu en Flandre dans l'armée espagnole, c'est-à-dire contre les Anglais. Les conspirateurs ont 9 mois pour s'organiser dans le plus grand secret. Casby, Wright, Wintour, Percy et Fawkes forment le noyau dur du complot. D'autres membres l'intègrent au fil des mois. Et contrairement à ce que prétend le dicton, l'union de tous ces hommes ne fera pas leur force. Les comploteurs louent une maison juste à côté du palais de Westminster, siège du Parlement. Ils ont prévu de creuser un passage jusqu'aux caves situées dessous. Ils se procurent des barils de poudre qu'ils entreposent dans la cave et cachent des fagots de bois. Les voilà, fin prêts. Malheureusement pour les conjurés, la séance d'ouverture du Parlement est reportée une première fois en raison de la peste, puis une seconde. Enfin, l'ouverture est prévue le 5 novembre 1605. Le temps joue avec les nerfs des comploteurs, mais aussi avec leurs convictions. Certains sont pris de remords. Tuer le roi, tout de même. Le 30 octobre, moins d'une semaine avant la session d'ouverture du Parlement, Lord Monteagle reçoit une lettre anonyme alors qu'il dîne avec des amis. C'est un mystérieux messager qui vient de la remettre à son valet avec pour consigne de la porter immédiatement à son destinataire. Immédiatement, ça veut dire en plein repas. Le valet pénètre donc dans la vaste salle à manger du Lord et lui transmet le message de l'inconnu. Intrigué, Lord Monteagle l'ouvre sur le champ et le lit. Et puis, il tend le message à son secrétaire en lui demandant d'en faire la lecture à toute l'assemblée des convives. Ce message lui conseille de ne pas se rendre à la session d'ouverture du Parlement s'il tient à la vie. Car Dieu et les hommes ont ensemble décidé de punir la méchanceté de ce temps. À la table du Lord, le message fait franchement l'effet d'un cheveu dans la soupe. Faire sauter le Parlement. Vraiment. Monteagle est catholique, mais loyal au roi Jacques Ier. Il transmet cette lettre au ministre Robert Cécile qui attend le retour du roi le 3 novembre pour l'informer de ce qui se trame. Jacques Ier décide de laisser les comploteurs mener à bien leur plan et de n'intervenir qu'au dernier moment pour prendre tout le monde la main dans le sac. Les sous-sols de Westminster sont inspectés le 4 novembre après-midi. La police découvre d'immenses tas de fagots et un homme. Il dit s'appeler Johnson. Bon, en réalité, c'est Guy Fawkes qui attend son heure. Et elle est proche. Les policiers sont de retour à 11h du soir et cette fois, ils fouillent la cave de fond en comble. Sous l'imposante pile de fagots, ils découvrent alors 36 barils de poudre. Guy Fawkes est arrêté. Sous la torture, il dévoile les noms de ses complices qui se sont enfuis dès qu'ils ont su que Lord Monteagle avait lu publiquement la lettre secrète. Ils se réfugient au château de Warwick, puis dans le Staffordshire, mais ils ont perdu les soutiens sur lesquels ils comptaient. Ils sont poursuivis par les agents du roi et bientôt cernés. Ils décident de les affronter héroïquement. Mais avant, ils s'agenouillent devant une image de la Vierge et demandent à Dieu de leur pardonner leurs péchés. Le 8 novembre, une fusillade éclate entre une poignée de comploteurs et 200 hommes des forces de l'ordre. 4 sont tués, tous les autres arrêtés. Ils rejoignent Guy Fawkes à la Tour de Londres où ils sont eux aussi torturés. Et le 5 novembre, me direz-vous ? Eh bien, le 5 novembre, la séance d'ouverture du Parlement a lieu, comme prévu, dans une ville enfiévrée. Le roi fait sonner les cloches et allumer des feux de joie à tous les carrefours. Il prononce un discours fleuve dans lequel il explique qu'il a échappé au complot car il est protégé par Dieu. Et que si le complot n'avait pas été démantelé, il aurait au moins eu la satisfaction de mourir au Parlement, entouré de tous les lords du pays et non pas dans une taverne ou un bordel. Le 5 novembre est déclaré jour d'action de grâce à perpétuité et jour de fête. Celle-ci est nommée la Guy Fawkes Night. Le procès des conjurés s'ouvre le 27 janvier 1606. Ils sont tous condamnés à mort. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur des pendaisons, mais le tarif pour haute trahison et tentative de régicide est beaucoup, beaucoup plus élevé. Vous allez voir, c'est tout un programme. Les condamnés doivent d'abord être traînés dans les rues de Londres, puis pendus. Mais pas jusqu'à ce que mort s'en suive, car ils doivent être dépendus. Puis on leur arrachera les parties génitales pour les brûler devant eux. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils seront décapités. Mais attendez la suite. Après la décapitation, on les démembre et on expose les pièces détachées en ville. On comprend donc pourquoi les condamnés cherchent à échapper à un tel traitement. La mort passe encore, mais le supplice, non ! Guy Fawkes, la corde au cou, parvient à se jeter de l'échafaud et à se rompre les vertèbres. La foule venue assister à un formidable spectacle d'éviscération et de décapitation hurle sa frustration. Mais il en reste trois autres. Elle va pouvoir rugir de plaisir. La conspiration des poudres est un complot raté à plusieurs niveaux. D'abord, parce qu'elle n'a pas atteint son but. Ensuite, parce qu'elle s'est retournée contre les catholiques, qui pour les Anglais deviennent dès lors synonymes de traîtres. On les traiterait aujourd'hui de terroristes. Au lendemain de la conspiration des poudres, les chrétiens sont plus que jamais divisés dans le royaume d'Angleterre. Dans les années 1980, les Britanniques Alan Moore au scénario et David Lloyd au dessin publient une bande dessinée intitulée V pour Vendetta. Dans un monde post-apocalyptique, elle met en scène un anarchiste qui lutte contre un pouvoir totalitaire. Ce personnage est inspiré de Guy Fawkes et il porte un masque. Un masque qui ressemble à ceux que les gens portent dans la rue le jour de la Guy Fawkes Night. Un masque blanc, un grand sourire figé, une moustache fine et une barbichette, des bonnes joues rouges, l'inconnu qui se cache semble sympathique. Comme Guy Fawkes, c'est un contestataire, le rebelle par excellence, qui cherche à renverser un pouvoir qu'il estime totalitaire. Quand en 2006, la bande dessinée V pour Vendetta est adaptée au cinéma, le masque de Guy Fawkes entre dans la culture populaire. En 2008, les Anonymous s'emparent à leur tour de ce masque. Ce sont des cyberactivistes et des altermondialistes qui défendent les libertés individuelles mises à mal, entre autres par Internet. Quand ils s'expriment en public, ils portent un masque qui préserve leur anonymat et qui les apparente symboliquement à un Anglais qui, au début du XVIIe siècle, luttait pour pouvoir pratiquer sa religion. Contrairement à lui, les Anonymous seraient pacifiques et non violents. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, je vais vous raconter les détails de l'affaire Stavisky, cet escroc qui a entraîné dans sa chute celle du gouvernement en 1934.
Voyagez au cœur de l'histoire de 15h à 16h sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque un salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques.
Docteur, c'est terrible. Je ne sais hésiter entre la qualité ou le prix ou la qualité. Je suis totalement perdu. Aidez-moi.
Écoutez, Madame Latsou, je ne vois qu'un seul traitement. Akena.
Akena? Quel rapport?
Le rapport qualité-prix, Madame Latsou. Vous savez, chez Akena, il n'y a pas mieux que ce soit pour les vérandas, les carports ou les pergolas.
C'est bon, Doc. Je suis guéri.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Mmh, c'est si bon.
Rouge des Prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En onglet.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Et oui.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
Virginie Giraud.
Cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire sur Europe 1, je vous raconte les grands complots qui ont marqué l'histoire. Alexandre Stavisky avait un petit côté Arsène Lupin, beau, intelligent, il aimait se déguiser pour monter d'énormes escroqueries dans lesquelles il impliquait des hommes politiques. Le problème, c'est que l'affaire va être découverte et avoir des répercussions sur tout le pays. Nous sommes à Chamonix le 8 janvier 1934. Il est à peine 16 heures, mais il fait déjà sombre. Malgré le jour déclinant, le couple Farjas marche dans la neige, les bras chargés de victuailles. À cette heure-ci, ils ne devraient croiser personne, et pourtant ils distinguent des silhouettes qui entourent leur chalet, le vieux logis. Que se passe-t-il ? Inquiets, ils décident de rebrousser chemin. À l'intérieur du chalet, un homme seul voit lui aussi les silhouettes par la fente de ses volets clos. Il reconnaît aussitôt des gendarmes et des policiers. Mais pour lui, il est déjà trop tard pour fuir. L'homme saisit son arme, tandis qu'une sueur glacée coule dans son dos. Il est fait comme un rat, lui, Alexandre Stavisky, riche à millions, proche des hommes d'affaires les plus influents. Il entend plusieurs voix d'hommes, puis des coups sur la porte de sa chambre. On s'acharne sur la serrure. Stavisky se met à trembler pour la première fois de sa vie. D'une voix blanche, il parvient à articuler. « Qui va là ?» De l'autre côté de la porte, c'est l'euphorie. Enfin, Stavisky donne signe de vie. Le commissaire charpentier lance le traditionnel « Police, ouvrez, vous êtes cernés !» Mais il a à peine fermé la bouche qu'un coup de feu retentit. Les policiers et les gendarmes s'immobilisent. Qui a tiré ? Vite, ils se mettent à l'abri. C'est le suspect qui leur tire dessus à travers la porte. Recroquevillé dans l'ombre, Charpentier intime à Stavisky de se rendre. Aucune réponse. Les policiers s'approchent de la porte et l'examinent. Aucun impact de balle. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre close ? Le 15 décembre 1933, Maxime Sadron, contrôleur des finances pour le Trésor public, se présente au Crédit municipal de Bayonne pour vérifier les comptes. Il ne s'est pas annoncé. Dans ce genre de visite, c'est en venant à l'improviste qu'on fait recette. Le Crédit municipal, c'est ma tante. Enfin, c'est aussi ce qu'on appelle le Mont-de-Piété. C'est un organisme qui, à l'origine, dès le 15e siècle en Italie, prête de l'argent aux gens momentanément dans le besoin. On y dépose des objets plus ou moins précieux et en échange, l'organisme accorde un prêt en argent. Les objets déposés sont mis en gage jusqu'à ce que le déposant revienne les chercher. Souvenez-vous de l'infâme Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo qui met en gage au Mont-de-Piété le trousseau de la pauvre petite Cosette contre de l'argent. Pour bien comprendre l'escroquerie que Maxime Sadron est sur le point de découvrir, il faut que je vous explique en quelques mots le fonctionnement du Mont-de-Piété. Pour obtenir l'argent liquide qu'il remet à ses clients, le Mont-de-Piété émet des bons de caisse. Ces bons sont remis à une banque qui fournit le cash. Mais un jour ou l'autre, il faut la rembourser. En cette journée du 15 décembre, le directeur du Crédit municipal de Bayonne est absent. Mais Maxime Sadron s'installe à son bureau et farfouille. Il aime bien fouiner, Maxime Sadron, surtout dans les établissements bancaires. Il y a toujours une ou deux manigances à découvrir. Les conséquences de ces découvertes du jour vont dépasser ses espérances et le faire entrer dans l'histoire. Il ne tarde pas à mettre la main sur un carnet d'émissions de bons. 6 sont signés en blanc. Un bon signé en blanc sous le coude d'un directeur d'établissement bancaire, c'est comme un chèque en blanc. C'est illégal. Et c'est exactement ce que cherche notre receveur des finances. Il met bons et registres dans sa sacoche et s'en va examiner ça de plus près dans son bureau. Ça ne prend pas longtemps. Quelques jours plus tard, Gustave Tissier, directeur du Crédit municipal de Bayonne, est arrêté. Il avoue sans tarder un détournement de 240 millions de francs, une belle somme. Emprisonné, Gustave Tissier ne veut pas plonger seul. Il met en cause Joseph Gara, le député-maire de Bayonne, le commanditaire du détournement d'après Tissier. Puis il implique un homme d'affaires célèbre dans la région qui entre aussitôt dans le collimateur de la police, le richissime Monsieur Alexandre. Il s'agit de Serge Alexandre Stavisky. Et ce n'est pas un perdreau de l'année. Hein. 1m73, svelte, toujours rasé de près et gominé, c'est un homme d'affaires influent connu de tous. Il est à la tête de nombreuses sociétés. Il loge dans les beaux hôtels et mange dans les meilleurs restaurants. Il compte parmi ses relations, et même ses amis, un certain nombre de ministres et de parlementaires qui témoignent de son honorabilité. Oui, mais Monsieur Alexandre est aussi un type peu recommandable qui a amassé une petite fortune grâce à ses escroqueries. Il est, comme on dit, bien connu des services de police. Serge Alexandre Stavisky est né en 1886 en Russie. Il est arrivé en France en 1890 avec sa famille. Son père l'imagine médecin, mais lui préfère quitter l'école à 16 ans pour faire carrière dans le music-hall. Malheureusement, il n'a pas le talent nécessaire. Il quitte la scène sans pour autant reprendre ses études. Il aime le champagne, les cabarets, les femmes et la vie frivole qui va avec. Pour s'assurer un tel train de vie, il se met à voler son père, puis à traficoter, même en temps de guerre. Et ça marche, parce que pour la roublardise, il a un vrai talent. Après l'armistice, l'argent coule à flot. Stavisky est devenu un maître de l'escroquerie. Il prend soin de se fabriquer un réseau de protecteurs jusque dans la police et la justice. Mais en 1926, la chance tourne. Il est emprisonné pour détournement, 6 millions de francs tout de même. Quand il sort de prison, il reprend sa vie légère et continue les arnaques, impliquant souvent des organismes et des hommes haut placés. Dans un instant, vous allez voir comment Stavisky va être, sans le vouloir, à l'origine de la crise politique qui signe le début de l'agonie de la Troisième République. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h.
Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour, c'est William Lémergie.
Balade en France.
Demain, à partir de 11h, nous nous arrêterons à Granville, dans la Manche, pour découvrir la maison d'enfance d'un des plus grands couturiers français, Christian Dior. Et pour la séquence plein air, nous survolerons les châteaux de la Loire en montgolfière. Un spectacle grandiose.
Balade en France. William Lémergie sur Europe 1.
Vous donne rendez-vous demain de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment?
D'abord on applique le sérum Lift Active B3, ensuite la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets?
Eh bien après 2 mois d'utilisation, les taches diminuent de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-tache qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur.
Mm-hmm.
Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-tache?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Europe 1.
15h, 16h, au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de complots qui finissent mal. Dans la dernière partie de l'émission, je vous raconterai comment quelques officiers de l'armée allemande ont essayé de tuer Hitler et ont bien failli y arriver. Mais avant d'en arriver là, je vous raconte la fin de l'affaire Stavisky. Comment cet escroc assez génial a précipité la fin de la Troisième République. Il crée des entreprises par dizaines. Dans leur conseil d'administration, ils placent des hommes au-dessus de tout soupçon. Des conseillers d'État, des fonctionnaires de police. Lui, il reste dans l'ombre. Enfin, pas quand il s'agit de flamber. Il part en vacances à Biarritz avec sa femme, Arlette et leurs deux enfants. Il dilapide ses gains au casino et ses luxueuses voitures éblouissent tout le monde. Il profite de son séjour sur la côte basque pour monter son chef-d'œuvre, le Crédit Municipal de Bayonne, qu'il crée de toutes pièces avec l'aide de personnalités locales et d'influents amis parisiens. Tout le monde se rue sur les bons de Bayonne, jusqu'au ministre du Travail et du Commerce, qui incite les compagnies d'assurance à investir. Monsieur Alexandre est l'homme d'affaires le plus influent du moment. La famille Stavisky s'installe sur les Champs-Élysées, définitivement plus chic que Biarritz, vous en conviendrez. Sans doute y aurait-il passé le reste de sa vie sans Maxime Sadron. Les déclarations de Tissier et le casier judiciaire de Stavisky suffisent pour que le juge d'instruction chargé de l'affaire du Crédit Municipal de Bayonne lance un mandat d'arrêt contre l'escroc russe. Car bien sûr, celui-ci a disparu à l'annonce de l'arrestation de Tissier. Sur les conseils de son avocat, il s'est réfugié en Savoie avec un ami escroc comme lui. Dans un premier temps, il s'installe dans une villa à Servoz, puis à Chamonix, au Vieux Logis. C'est un chalet assez éloigné du centre, sans voisins proches, le type même du vieux chalet savoyard avec une façade moitié pierre, moitié bois. La vue sur l'Aiguille du Midi, le Mont Blanc et les glaciers des Bossons et d'Argentière est superbe. Exactement ce qu'il faut à Monsieur Alexandre. Mais l'escroquerie de Bayonne prend de l'ampleur et Monsieur Alexandre se sent traqué. Il n'a pas tort. Sa photo est en une de tous les journaux et la police perquisitionne les sièges de toutes ces sociétés. Les escroqueries du beau mondain sont révélées et déjà on s'interroge. Comment cet homme a-t-il pu agir aussi longtemps en toute impunité? Il doit être protégé en haut lieu, très haut même. Début janvier 1934, trois policiers parisiens débarquent à Servoz. Il y a le commissaire Charpentier et les inspecteurs Le Gall et Girard. Ils se rendent dans la villa qu'on leur a indiquée, mais l'oiseau a quitté le nid. Ils enquêtent sur place, naviguant à l'aveugle sans beaucoup de succès. Ils savent que Stavisky est là, à Chamonix ou tout près. Mais où ? Alors qu'ils sont sur le point de plier bagages, un tuyau arrive de Paris. Stavisky s'est réfugié dans un chalet nommé le Vieux Logis. Les gendarmes commencent la surveillance. Peu avant 14h, le 8 janvier, le couple Farjas, qui vit avec Stavisky, quitte le Vieux Logis. Stavisky lui-même se replie dans sa chambre, tout volet clos, comme toujours quand il est seul. Il n'a pour tout mobilier qu'un vieux lit, une table, une chaise et une armoire. On est loin de l'hôtel Claridge des Champs-Élysées qu'il a hâte de retrouver. En attendant, il lit la presse pour savoir ce qu'on dit de lui. À ses côtés, il a posé son pistolet, dont il ne se sépare plus. Tout à coup, il dresse l'oreille. Il y a un bruit là, dehors. Stavisky s'assoit d'un bond, éteint la lumière et saisit son arme. Il entend des pas dans la neige qui longe le chalet. Plusieurs personnes, au moins quatre. Pas les Farjas donc. Voilà qu'on frappe. Ce sont Charpentier, Le Gall et Girard. Ils sont accompagnés de Chatou, le propriétaire du chalet, dont ils font le tour pour trouver une entrée. Chatou repère une fenêtre restée ouverte. Il va chercher une échelle dans une remise, y grimpe et enjambe la fenêtre. Puis de l'intérieur, il ouvre la porte aux policiers. A priori, il n'y a personne dans le chalet, sauf que la porte d'une des deux chambres est fermée à clé de l'intérieur. Les trois policiers et le propriétaire regardent la porte en silence. Charpentier tripote nerveusement dans sa poche le mandat d'arrêt contre Stavisky, mais il n'enfonce pas la porte, une simple porte de bois, pour cueillir son suspect. Charpentier envoie ses acolytes inspecter le reste du chalet. En théorie, c'est très vite fait, puisqu'il ne reste que la cave et quelques mètres carrés. Mais Charpentier reste quand même 20 minutes seul devant la porte close. Ce qui se passe alors restera un mystère. Charpentier parlemente-t-il avec Stavisky? Lui demande-t-il de se rendre? De se suicider? On ne saura jamais. Quand ces hommes remontent de la cave, il en place un en faction devant la porte et part en compagnie d'un gendarme téléphoné à la Sûreté Générale. Il a besoin des conseils d'un de ses supérieurs. La conversation est courte. Sur le chemin du retour vers le chalet, Charpentier croise un journaliste et lui dit « Ça y est, on le saute !» Voilà qui intéresse au plus haut point le journaliste qui emboîte le pas aux forces de l'ordre. Quand le coup de feu retentit dans la chambre de Stavisky, policiers et gendarmes se jettent sur la porte pour l'enfoncer. C'est peine perdue. L'un d'eux a l'idée de passer par la terrasse et d'enfoncer le volet de la porte-fenêtre qui, elle, ne résiste pas à leur assaut. Le gars brise le carreau, passe la main par le trou et fait jouer la serrure. La porte-fenêtre s'ouvre. Dans la chambre, l'obscurité est totale. Il faut se méfier. Le type peut être tapi dans l'ombre pour les tirer comme des lapins. Ils attendent. Rien ne se passe. Un signe de tête de charpentier et le gars entre, arme au poing. Il voit d'abord un pyjama sur le lit. Puis, il entend des allaitements et un horrible gargouille. Il avance vers le lit qui lui cache la moitié de la pièce. Sur le plancher, dans la pénombre, il distingue des pieds. Il fait le tour du lit et découvre le corps tremblant d'un homme qui tient encore une arme à la main. Son sang coule par un trou à la tempe. Devant ce corps agonisant, Charpentier ne sait pas quoi faire. Ce n'est décidément pas un homme d'action. Il a besoin que sa hiérarchie lui donne des ordres. Quand le docteur Jamin arrive sur place, il est trop tard. Stavisky est plongé dans un coma dont il ne sortira jamais. Il déplace quand même le corps et lui glisse un oreiller sous la tête. Le moribond n'arrivera à l'hôpital de Chamonix qu'après 18 heures. Et le lendemain, 9 janvier 1934, à 3h50 du matin, Stavisky meurt à l'hôpital sans qu'on ait pu l'opérer. La photo de son cadavre sanglant s'affiche en une des journaux à scandale. L'annonce de sa mort retentit comme un coup de tonnerre. Aussitôt, on soupçonne la police de l'avoir assassiné. Cet homme-là en savait trop. Il ne devait en aucun cas parler. Mais jusqu'à quel point en savait-il trop? Sur qui? Le gouvernement se débarrasse de Stavisky en le faisant abattre à Chamonix. La thèse officielle du suicide est battue en brèche par de nombreux témoignages contradictoires. Le gouvernement de Camille Chautemps, président du Conseil, est au début d'une crise politique sans précédent. Le scandale a d'importantes répercussions politiques lorsque l'opinion apprend les liens qui lient Stavisky à certains parlementaires en vue. Parce que Stavisky était juif, influent et escroc, l'extrême droite dénonce les compromissions de M. Alexandre et ses amitiés jusqu'au sommet de l'État qui lui permettaient de s'enrichir à millions. Ces révélations attisent la rancœur des Français qui descendent dans la rue. La presse dévoile les noms des relations de Stavisky dans la police, la justice et le monde politique. On remonte jusqu'au beau-frère du président du Conseil des ministres, Camille Chautemps. Les arrestations s'enchaînent et les manifestations prennent une ampleur sans précédent. Voilà que le garde des Sceaux démissionne, suivi le 27 janvier 1934 de Chautemps lui-même. Édouard Daladier, réputé pour son intégrité, lui succède. Aussitôt, il révoque Jean Chiappe, le préfet de police. Cette décision met le feu aux poudres car le préfet est un sympathisant d'extrême droite. Daladier doit alors faire face le 6 février 1934 à une manifestation qui prend un tour politique car les ligues d'extrême droite s'en emparent pour appuyer leurs revendications antiparlementaires. Elles montrent du doigt la compromission des hommes politiques qu'elles traitent de voleurs et d'assassins. L'Action française, rejointe par les Croix de Feu, accuse le gouvernement d'avoir fait traîner l'enquête. D'autres groupuscules proches du Parti communiste protestent contre les scandales financiers, mais également contre le refus du gouvernement d'augmenter les pensions des anciens combattants. La manifestation se transforme en émeute qui fait 16 morts et 600 blessés du côté des manifestants, 1600 du côté des policiers. Le lendemain, Édouard Daladier démissionne lui aussi. Le pouvoir est dans la rue. Gaston Doumergue, ancien président de la République, lui succède à son tour. Il doit faire face à une autre manifestation violente le 9 février. Elle fait 3 morts et plus de 500 blessés. Les manifestations se poursuivent jusqu'au 12 février, c'est la grève générale. La capitale est paralysée, mais le gouvernement Doumergue tient bon. L'affaire Stavisky se termine par un procès qui s'ouvre en janvier 1936 devant la cour d'assises de Paris, en l'absence du principal accusé, bien sûr. Il compte 250 témoins et 50 avocats pour 20 inculpés. 9 d'entre eux sont condamnés, dont 2 parlementaires, Gaston Bonnord, député de Paris, et Joseph Gara, député maire de Bayonne. Je sais que ce récit-là, vous l'attendez avec impatience. Le héros s'appelle Klaus von Stauffenberg. Il est beau comme un prince de la mythologie germanique et il va essayer de tuer Hitler. Je vous raconte dans un instant comment le Führer va échapper à une bombe qui explose à ses pieds. On reste ensemble sur Europe 1.
Voyagez au cœur de l'histoire de 15h à 16h sur Europe 1. Bonjour, c'est Sonia Mabrouk.
Europe 1, le grand rendez-vous.
Demain, le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invitée, Malika Sorel. Essayiste ayant rejoint le Rassemblement National, elle est numéro 2 sur la liste de Jordan Bardella. Quelles sont ses motivations? Comment compte-t-elle s'imposer dans la campagne des européennes? Et plus largement, son regard sur les sujets d'actualité? Rendez-vous demain sur Europe 1 et CNews.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Hey, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le récit que je m'apprête à vous raconter est fou. C'est l'histoire d'une poignée d'officiers qui voulaient tuer Hitler pour sauver l'Allemagne. Et ils ont bien failli réussir. Nous sommes le 20 juillet 1944, dans l'un des quartiers généraux d'Hitler, à la Wolfschanze, le repère du loup situé près d'un bois en Prusse orientale, aujourd'hui en Pologne. Le bunker du Führer est en travaux. La réunion de l'état-major se déroule donc dans un cabanon. Klaus von Stauffenberg, le chef de l'état-major attaché au commandement de l'armée de réserve, entre dans la pièce. Il la balaye du regard et tente de dissimuler son agacement derrière un masque d'impassibilité. Les fenêtres sont ouvertes. Cela réduira la puissance de la déflagration. Et surtout, il y a une table en bois monumentale. Elle ne repose pas sur quatre pieds comme une table normale, mais sur deux blocs épais qui, eux aussi, réduiront l'onde de choc. Ils s'avancent vers cette table imposante autour de laquelle se réunissent une vingtaine de militaires. Stauffenberg joue discrètement des coudes pour venir se positionner près du Führer juste à sa droite. Avec les trois doigts qui lui restent, il serre la poignée de sa mallette avant de la poser calmement sous la table entre les deux pieds gigantesques qui soutiennent le plateau. La réunion commence. On déploie des grandes cartes sur la table pour étudier les mouvements des troupes et adapter leurs déplacements sur les différents fronts. Stauffenberg prétend avoir un coup de téléphone urgent à passer et quitte la pièce avec son aide de camp. Le colonel Brandt profite de la place laissée vacante par Stauffenberg pour se rapprocher d'Hitler et mieux voir les cartes. Alors qu'il se penche pour les observer, son pied heurte une mallette sous la table. Il la déplace négligemment de l'autre côté du grand pied monolithique et l'éloigne d'Hitler. Au bout de quelques minutes, l'un des officiers présents s'étonne de ne pas voir revenir Stauffenberg. À ces mots, Hitler lève le nez des cartes, ses yeux s'arrondissent. Au moment où l'officier s'interroge, Stauffenberg est déjà en train de passer les checkpoints qui permettent de quitter la Wolfschanze. Il est calme, personne ne songerait à l'arrêter. Soudain, il entend une déflagration dans son dos.
Sa bombe a explosé. Hitler est mort. Il ne lui reste plus qu'à rentrer à Berlin et à lancer l'opération Valkyrie. Klaus von Stauffenberg ressemble à un prince prussien. Grand, châtain, svelte et athlétique, il est le digne héritier d'une famille allemande aristocratique dont l'aïeul s'est autrefois battu contre Napoléon. Pour lui, œuvrer à la grandeur de l'Allemagne est un devoir propre à sa classe. Voilà pourquoi il intègre l'armée dès ses études terminées en 1926. Il fait même partie des derniers bataillons de cavalerie, ce qui garde une vision romantique et héroïque de la guerre, comme s'il n'avait pas tout à fait pris conscience que les tanks et l'aviation avaient déjà révolutionné les champs de bataille. Pendant la République de Weimar, durant laquelle les mœurs se relâchent, pendant que les Berlinois dansent dans les cabarets les plus avant-gardistes, Klaus von Stauffenberg fréquente ce qu'il reste de l'élite aristocratique conservatrice, ces gens dont les racines culturelles enlacent les contes germains pluriséculaires, Goethe et Wagner. À 22 ans, il se fiance à une jeune fille de son rang, Nina, à peine sortie de l'adolescence. Mais elle partage son amour de l'Allemagne et de la poésie. Ils forment un couple heureux et bientôt une famille traditionnelle avec 4 enfants. Mais Klaus n'est pas souvent auprès des siens. Il sert son pays. Klaus von Stauffenberg a donc juré obéissance à Hitler, comme tous les soldats et les officiers de la Wehrmacht. Hitler sait qu'il se prémunit ainsi d'un éventuel putsch. En 1939, Stauffenberg participe à la campagne de Pologne, celle qui fait entrer l'Europe en guerre par le jeu des alliances. L'invasion est extrêmement violente. À ce stade, Klaus von Stauffenberg est convaincu d'agir pour le bien de l'Allemagne. Dans ses lettres à sa femme, il exprime son mépris pour ses peuples inférieurs. Il trouve normal de les réduire en esclavage pour les faire travailler dans les champs du Grand Reich. À cette époque, Stauffenberg tisse des amitiés parmi les officiers opposés au nazisme, mais qui souhaitent gagner la guerre pour l'Allemagne. Parmi les hommes qui se méfient du Führer, il y a le général Friedrich Olbricht, le chef du bureau général de l'armée. Il fait partie de ceux qui ont imaginé l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie, c'est un plan d'urgence permettant de garantir la continuité de l'État et des actions gouvernementales en cas de grave soulèvement de la population, de mutinerie ou même du décès d'Hitler. Dans un second temps, ce plan permet de désarmer les SS, le corps d'armée des nazis, et de confier le pouvoir de manière légitime à l'armée territoriale de réserve allemande qui aurait même la capacité à destituer le gouvernement civil. En d'autres termes, le plan d'urgence Valkyrie est un outil de coup d'État mis au point par des ennemis d'Hitler en lui faisant croire qu'il garantira la continuité du pouvoir en cas de catastrophe. Et Hitler valide lui-même la création de cette opération nommée Valkyrie en l'honneur de ces déesses guerrières nordiques qui emmenaient les âmes des héros tombés au champ d'honneur au paradis. C'est accessoirement aussi le nom d'un opéra de Wagner et on connaît l'admiration d'Hitler pour ce compositeur. La seule personne à pouvoir donner l'ordre d'application de l'opération Valkyrie est le colonel général Friedrich Fromm, le chef de l'armée de terre de réserve depuis 1938, un homme qui refuse de participer à un coup d'État malgré son antipathie pour le Führer. Il faudra donc lui forcer la main en temps utile en assassinant Hitler. Quelques semaines plus tard, les troupes allemandes sont toujours en opération en Afrique du Nord malgré la mise en garde de Rommel. C'est là que le régiment de Stauffenberg est attaqué par l'aviation alliée. Il perd son bras droit, 2 doigts de la main gauche et l'un de ses yeux. Il est désormais convaincu que, s'il a eu la vie sauve, c'est pour accomplir une mission bien précise. Débarrasser l'Allemagne d'Hitler. Sur ces entrefaites, le Führer a échappé au printemps 1943 à 2 attentats à la bombe, comme s'il était protégé par le diable en personne. Mais les conjurés n'ont pas dit leur dernier mot.
En tant que blessé de guerre, Stauffenberg ne peut plus servir au front. Il obtient un poste de chef d'état-major au Bennerblock, un complexe militaire à Berlin. Là, il se rapproche d'Olbricht, l'un des artisans de l'opération Valkyrie, du colonel Merz, ainsi que d'autres officiers opposés à Hitler. En tant que chef d'état au Bennerblock, Stauffenberg est souvent invité à des réunions militaires en présence d'Hitler. Ce 20 juillet 1944, il part en avion dans le repaire du Loup, l'une des tanières d'Hitler en Prusse orientale. La réunion réunit une grosse vingtaine de personnes dans un cabanon aux fenêtres ouvertes munies d'une table monumentale. Avant de commencer la réunion, Stauffenberg casse un tube de verre qui contient un acide qui ronge la gaine d'un détonateur et il le plante dans une charge explosive cachée dans sa mallette. La bombe devrait exploser entre 12h40 et 12h50, c'est-à-dire dans moins de 20 minutes. La mallette est abandonnée sous la table de réunion. Stauffenberg et son aide de camp quittent la pièce sous prétexte de passer un coup de téléphone. Le colonel Brandt déplace la mallette derrière le gros pied de la table pour se rapprocher du Führer. L'un des officiers se demande où est passé Stauffenberg. En entendant ces mots, Hitler redresse la tête. Il comprend immédiatement ce qu'il se passe. Il sort précipitamment de la pièce juste avant que la déflagration ne souffle le cabanon. Il s'en sort avec quelques égratignures. Dans la salle de réunion, il y a plusieurs blessés légers et graves, ainsi que 4 morts. Stauffenberg vient de passer les checkpoints du repère du Loup quand sa bombe explose. Il est convaincu d'avoir tué Hitler. Il rejoint l'aéroport et s'envole précipitamment pour Berlin afin de lancer l'opération Valkyrie. Pour plus de sûreté, il sait que des complices ont saboté les moyens de communication du repère du Loup. Vers 16h, Olbricht commence à passer quelques coups de fil à la police pour signaler les débuts imminents de l'opération Valkyrie. À 16h30, il se rend au Bennerblock avec le colonel Merz, Klaus von Stauffenberg, et son aide de camp, l'Oberlieutenant von Hoften. Dans ce moment décisif, l'information circule mal. Certains conjurés ont appris que Hitler avait survécu à un attentat. Il semble que Stauffenberg l'ignore encore. Il affirme à Friedrich Fromm, le chef de l'armée de réserve, qu'il a tué Hitler et qu'il doit lancer l'opération Valkyrie. Fromm résiste à Stauffenberg et à Olbricht en affirmant que le Führer est toujours vivant. Il s'ensuit alors un moment de confusion où les conjurés et les officiers fidèles tentent de se mettre respectivement en état d'arrestation. C'est finalement le colonel Merz qui envoie des ordres régionaux pour lancer l'opération Valkyrie. En plusieurs endroits, y compris à Paris, les officiers de la Wehrmacht commencent à organiser l'arrestation des membres de l'ASS et de la Gestapo. À Berlin, l'armée tente d'occuper des points stratégiques comme certains ministères. Mais les chaînes de commandement fonctionnent mal et les rouages de l'opération Valkyrie se grippent à plusieurs niveaux. Pendant que la tension monte au Bennerblock, Hitler a déjà soigné ses égratignures et reçoit, comme prévu, Benito Mussolini venu lui rendre visite. Avec un cynisme consommé, il lui fait visiter les ruines du cabanon où la bombe des conjurés a explosé. À partir de 16h, une fois les moyens de communication rétablis dans le QG d'Hitler, une série de messages sont envoyés dans toutes les institutions militaires et civiles pour signaler l'attaque à l'encontre d'Hitler et sa survie miraculeuse. Le QG rappelle à chaque destinataire qu'il est interdit d'obéir aux ordres des conjurés. Partout en Allemagne, la Wehrmacht et les SS célèbrent en commun la bonne nouvelle et réaffirment ensemble leur volonté de servir le Reich. Au Bennerblock, l'armée se retourne contre les officiers conjurés. Dans la soirée, ils sont désarmés. On conseille à Stauffenberg de se suicider tant qu'il le peut encore, mais l'officier refuse. Quelques heures plus tard, Hitler fait un discours sur les ondes. Il jette l'opprobre sur une petite clique de soldats ambitieux et promet des châtiments exemplaires. Il est maintenant un peu plus de minuit. Fromm a repris le contrôle du Bennerblock et veut se débarrasser au plus vite des conjurés. À défaut de les avoir aidés, il connaissait leur projet et il vaut mieux que la Gestapo ne le découvre jamais. Il constitue donc une cour martiale d'urgence et condamne à mort Olbricht, Merz, von Eften et Stauffenberg. Les quatre condamnés sont descendus dans la cour de l'immeuble et alignés dans la lumière crue des véhicules militaires. Ils sont fusillés l'un après l'autre. Avant de mourir, Stauffenberg crie « Vive la Sainte Allemagne !» Puis il s'écroule sur un tas de sable souillé de sang. La répression qui s'ensuit est sanglante. Il y a plusieurs milliers d'arrestations. Une parodie de justice se met en place. Certains hauts gradés sont condamnés à la pendaison à une corde de piano, dernier raffinement de sadisme nazi. Erwin Rommel, quant à lui, est contraint de se suicider en octobre 1944, car il connaissait bien certains conjurés et était favorable à une négociation de paix secrète avec les Alliés. Les nazis prétendent qu'il est mort de cause naturelle et lui donnent des funérailles nationales pour des questions de propagande. Nina, l'épouse de Stauffenberg, est arrêtée alors qu'elle attend son cinquième enfant. Elle séjourne à Ravensbrück alors que ses petits sont placés dans un orphelinat. On envisage de les faire adopter par de bonnes familles nazies pour les rééduquer et leur faire oublier jusqu'au nom de leur père. Mais Hitler précipite effectivement l'Allemagne dans l'abîme. Il se suicide le 30 avril 1945, après l'avoir laissé exsangue. Le pays passe sous contrôle allié. Nina Stauffenberg retrouve ses enfants qui lui donneront plus de 30 petits-enfants. Le nom d'Hitler est gravé à jamais dans l'histoire, mais celui de Klaus von Stauffenberg reste dans son ombre. Il est désormais le symbole de la résistance de l'armée allemande contre le Führer. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain pour des récits fantastiques où il sera question de vampires et de monstres. Bienvenue dans la littérature fantastique du 19e siècle, ou plutôt dans la vie de leurs auteurs, Bram Stoker et Mary Shelley. Et puis je recevrai aussi le médecin légiste de l'histoire, Philippe Charlier, qui viendra nous parler des vrais vampires. Et j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous savez que nos récits sortent d'abord en podcast ? Pour écouter des récits inédits, tapez « Au cœur de l'histoire » sur votre plateforme d'écoute. Cette semaine, par exemple, je vous raconte l'histoire de George Sand, de Paris à Nohant. Je vous raconte comment elle est devenue le plus grand écrivain du 19e siècle. Et si vous aimez l'histoire, vous aimez sans doute le cinéma. Vous avez rendez-vous chaque samedi à 19h avec Laurie Choleva pour Clap, l'émission qui raconte le cinéma aux auditeurs d'Europe 1. Laurie Choleva est toujours accompagnée d'invités et ce soir, elle reçoit un acteur que j'adore. C'est André Dussolier pour le film N'avoue jamais en salle le mercredi 24 avril. Et tout de suite, vous jouez avec Sophie et les copains. Vous allez pouvoir profiter des meilleurs moments de la semaine. Bon week-end et à bientôt sur Europe 1.
On en parle.
Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi l'élevage bovin herbagé est-il plus durable ?
Eh bien, il l'est parce que l'alimentation que l'on donne à nos bovins est composée en moyenne de 84% de produits issus de nos fermes.
D'accord. Et de quels produits s'agit-il exactement ?
Bon, bien sûr de l'herbe hein, en premier, ouais. Mais aussi de céréales, de blé, d'orge, de maïs, de tournesol. Ouais. L'avantage, ce sont des productions en grande partie qui sont non consommées par l'homme.
Et qu'en est-il de la fertilisation des sols ? Autrement dit, comment nourrissez-vous vos terres ?
Sur la partie culture, 35% des sols de notre filière sont fertilisés avec des lisiers, des fumiers. Ce sont des matières naturelles.
Très bien.
Et ça nous permet de réduire l'utilisation des engrais de synthèse et de limiter le transport des fertilisants.
Merci beaucoup, Marie-Vonne.
On en parle. Consultez nos sources d'informations sur interbev.fr, rubrique Enjeux sociétaux. Rapport Interbev RSO 2021-2022 et étudie DEL 2021.
Leclerc, bonjour.
Salut. Moi, j'ai hyper envie de faire un fantabuleux fantapéro avec tous mes fantas amis.
Justement, on est en pleine Fanta promo.
Fantastique.
Alors, pour tous les fans de Fanta, le deuxième pack de 6 canettes de 33 centilitres de Fanta orange est à moins 50% du 16 au 27 avril pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe aussi au goût citron, mangue et fruits du dragon. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité et durabilité. Votez pour l'avenir. Achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Notre première rencontre, Manhattan, club de jazz. Je jouais sur mon piano nacré et c'est là que tu t'es mise à chanter.
Allez, dis-leur, c'était sur 10 ans demain.
Oui, j'avoue, j'avais vu sur ton profil que t'étais fan de jazz.
Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres. Provoquez le destin sur 10 ans demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans.